Amen. Merci Godéric, je ne suis pas pasteur. Mais on va être messager de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous ce matin. Je ne dis pas pour vous, je dis pour nous. Le Seigneur commence par parler à celui qui va parler. Et combien ce message m'a fait du bien, m'a remis en cause aussi. Ce matin, j'ai envie de parler de ce qu'on appelle la miséricorde. La miséricorde de Dieu, vaste programme. Et il y a une question qui vient souvent, jusqu'à quand ? S'accompagne la miséricorde. Cette question, Dieu l'a posée plusieurs fois dans la Bible. Un exemple tout bête. Nombre 14, verset 11. Nous lisons ceci, « Et l'Éternel dit à Moïse, Nombre 14, 11, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» On ne va pas jeter la pierre au peuple d'Israël. Cette question pourrait nous être retournée. Jusqu'à quand, peuple de Martigues, me mépriseras-tu ? Jusqu'à quand ne croiras-tu pas en moi ? Jusqu'à quand, peuple de France, on pourrait, jusqu'à quand, ma famille, moi-même, j'ai méprisé ce que Dieu fait ? Cette question résonne encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? La miséricorde de Dieu est toute petite. Ça vous va ?
Non.
Ah. Non, elle n'est pas toute petite. Elle est grande, elle est immense à l'image de son amour. On ne peut pas la mesurer. Mais si sa miséricorde est immense, elle est grande, malgré tout, ce n'est pas un permis. Vous savez ce que c'est que le permis, hein ? Essayez de conduire sans permis, les forces de l'ordre vont vous rappeler que vous n'avez pas le droit. La miséricorde de Dieu, même si elle est immense, elle n'est pas un permis pour pécher, sans conséquence. Mais par contre, sa miséricorde est un appel pressant, pressant, qui nous presse à quoi ? À la repentance. Il ne faut pas tout confondre. Je reprends cette phrase. La miséricorde de Dieu est immense à l'image de son amour. On ne peut pas la mesurer. Mais elle n'est pas un permis pour pécher. Mais c'est un appel pressant. C'est pressant. Il y a urgence. C'est ce que ça veut dire. Il y a urgence. C'est un appel pressant à la repentance. Ce matin, nous allons considérer trois hommes, j'aurais pu en prendre beaucoup dans la parole de Dieu, qui ont reçu la miséricorde de Dieu. J'ai retenu Caïn, Saül et Manassé. Trois destins, trois réactions différentes face à l'amour patient de Dieu. Mais un seul, parmi ces trois, a retrouvé la vie. Mais d'abord, qu'est-ce que la miséricorde ? Pardon ? C'est pas le pardon. La miséricorde, c'est cet amour, c'est une manifestation de l'amour de Dieu qui ne nous donne pas ce que nous méritons. La miséricorde, c'est quelque chose qui ne nous est pas donné alors que nous le méritons. Un jugement. Nous sommes sous le coup du jugement. Mais la miséricorde de Dieu nous empêche d'être sous le jugement. Ça, c'est énorme. Mais la miséricorde est une porte ouverte vers le pardon. Le pardon vient après. La miséricorde, c'est « tu mérites ça, mais je ne te le donne pas ». Un jugement, une sentence. Éphésiens 2, versets 4 à 8. Nous lisons ceci dans Éphésiens 2, versets 4 à 8. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans ce texte, il y a deux aspects importants de la volonté et de l'amour de Dieu. Il y a deux notions qui se complètent, qui ne s'opposent pas, mais qui se complètent. Une notion qui est répétée souvent, c'est la grâce. La grâce de Dieu, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on nous donne et qui n'est pas mérité. À ne pas confondre avec la miséricorde, c'est quelque chose qu'on mérite et qu'on ne reçoit pas. Vous comprenez la différence ? La grâce, nous avons le salut par grâce, on le disait tout à l'heure. Jésus a payé le prix, si on devait payer le prix de notre salut, mais personne ne pourrait le payer. Personne ne pourrait le payer. Donc c'est par grâce que nous avons reçu le salut. Nous avons reçu un cadeau énorme. Et par grâce, nous pouvons considérer que nous sommes là ce matin. Avec la santé qui va plus ou moins bien, mais c'est une grâce d'être là. Combien auraient aimé être dans ce lieu ce matin et ne le peuvent pas parce qu'ils sont attachés à un lit de souffrance, parce qu'on ne les laisse pas sortir de la maison. Nous sommes là, c'est une grâce. Nous respirons, c'est une grâce. Nous avons un travail, c'est une grâce. Nous avons la chance d'avoir des facilités pour nous soigner, même si ça devient de plus en plus compliqué. Combien aimeraient avoir cette facilité-là ? C'est une grâce d'avoir une famille de Dieu comme ça, parce que je ne suis pas seul. Dieu a permis que nous soyons les uns avec les autres. Ah oui, mon frère, ma sœur a du mal à me supporter, moi aussi. Mais ça, ce sont des sentiments humains. Et si je me laisse dominer par mes sentiments humains, ici même, l'Assemblée explose. Parce que, humainement parlant, suis-je aussi supportable que ça ? Demandez à ma femme. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous remplit. Il était question d'être rempli au point même de déborder. Mais par la grâce de Dieu, mes sentiments humains, je les ai déposés à la croix. Tous ceux qui sèment la zizanie, l'orgueil, et tellement d'autres sentiments qui sont là pour nous séparer. La jalousie. Oh, il a encore changé de voiture, lui. Mais comment il fait ? Oh, quelle belle maison. Beau tailleur. Et la jalousie est là. Et si on ne fait pas attention, ce sont des graines qui arrivent dans nos cœurs pour nous séparer et nous diviser. Mais c'est une grâce de Dieu d'être dans une famille, alors que tout nous opposerait, il y a un ciment, un lien qui s'appelle Jésus. Et le Saint-Esprit, cet amour qu'il a manifesté, nous unit les uns aux autres. Et moi, c'est une joie d'être là ce matin avec vous. Il n'y aurait pas le Seigneur, je ne sais pas si cette joie serait partagée, mais parce que le Seigneur est là, et a changé nos cœurs, et nous remplit d'amour les uns pour les autres. Alors c'est une joie. Amen. Ça, c'est une grâce. Maintenant, la miséricorde, j'en parlais tout à l'heure. Dieu nous épargne ce que nous méritons. Nous méritons quoi ? Tous la mort, tous le jugement. Mais sa miséricorde retarde au maximum cette échéance parce qu'il nous appelle au salut. Il nous appelle au salut. Il frappe à la porte d'un cœur encore ce matin. Jusqu'à quand ? Laisseras-tu ton cœur fermé ? Tu n'entends pas ? La porte de notre cœur n'a qu'une seule poignée, elle est à l'intérieur. Celui qui a trouvé cette image extraordinaire, je ne sais pas qui l'a eu cette image, mais c'est une image extraordinaire. Le Seigneur ne peut pas ouvrir notre porte. Est-ce qu'il le veut ? Oui. Qu'elle s'ouvre. Est-ce qu'il en a le pouvoir ? Bien sûr. Il a le pouvoir de forcer la porte. Mais Seigneur, ne veut pas nous forcer. Il nous respecte tellement que si je décide de garder la porte fermée, il va attendre que tu ouvres. C'est pas ce qu'a prévu le diable. Hein. Alors lui, il cherche tous les moyens d'entrer. Il va essayer de forcer la porte, passer par la fenêtre, démonter le toit, passer par le... Le diable, il veut rentrer. Et lui, il force. Mais des fois, ça nous arrange de lui ouvrir aussi. Hein. Quand on succombe à la tentation, c'est nous qui ouvrons la porte. Bon, je m'éloigne un peu du sujet, mais... Mais toutes ces actions-là mériteraient un jugement sur nos vies. Mais la miséricorde de Dieu ne nous fait pas tomber sous le jugement. Arrivera un moment où il y aura un jugement. Mais nous avons toute notre vie pour prendre la bonne décision. Ça vous rassure, hein ? Oui, moi aussi ça me rassure. Il y a juste une question que je nous pose ce matin. Quand est-ce que tu as prévu que ta vie se termine ? Ça ne se programme pas. Hein. Donc, même si on a toute notre vie pour user de la miséricorde de Dieu avant de prendre une décision et demander pardon, le seul problème qui reste, c'est que je ne sais pas quand est-ce que ma vie va s'arrêter. C'est pour ça qu'il y a une urgence. La miséricorde de Dieu, c'est cet appel pressant à la repentance. Ça fait combien de temps que le Seigneur frappe à ton cœur ? Alors, peut-être pas pour tout, mais il y a certains pans de notre vie, ce qu'on appelle notre jardin secret. Vous avez un jardin secret ? Malheureusement, oui, on en a souvent tous un ou plusieurs, dans lequel c'est secret pour moi, mais c'est aussi secret pour Dieu. Il n'y a pas accès. Il y a longtemps en arrière, j'avais dit, Seigneur, jamais je ferai ça. Je ne vais pas vous le dire, mais est-ce que c'est parce que c'est trop personnel. Mais j'avais dit ça, Seigneur, jamais. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans, cette position-là a été arrêtée depuis aujourd'hui 30 ou 40 ans. J'étais jeune quand j'ai arrêté cette position-là. Mais en fin de compte, en disant cela, c'est ce que j'ai compris il y a 2-3 ans. J'avais mis un interdit dans mon cœur à Dieu. Je vous explique. En disant, Seigneur, je ne ferai jamais ça, finalement, je prenais une décision pour ma vie, et ce n'est pas Dieu qui l'avait prise. C'était un endroit où Dieu était interdit. Et le Seigneur m'a rappelé cette formulation, cette prise de décision que j'avais faite. David, je n'ai pas accès là. C'était un jardin secret. Je ne veux pas ça. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie que Dieu nous aime. Excusez-moi, mais Dieu nous aime. Et quand il nous demande de faire quelque chose, il nous donne les moyens aussi pour l'accomplir. Mais si on n'aime pas manger, je vais dire n'importe quoi, du chocolat, il ne va pas nous forcer à manger du chocolat non plus. Et donc en disant non à Dieu à certaines choses, c'est comme si je lui interdisais d'intervenir. En fin de compte, je ne lui faisais pas confiance. En ayant fixé ce nom-là, je ne lui faisais pas confiance. Et cet interdit-là était dans ma vie. J'avais interdit, Seigneur, ça non. Mais à un moment donné, cette décision-là est devenue gênante dans ma croissance spirituelle. La miséricorde de Dieu s'est manifestée tout au long de ma vie par rapport à cet interdit-là que j'avais dit, Seigneur, tu ne seras pas là. Là, non. Mais à un moment donné, c'est devenu gênant. Et le Seigneur m'a dit, et ça ? Tu me dis oui ou tu me dis non ? Je me suis senti mal. Hein. Donc j'ai demandé pardon au Seigneur et je lui ai dit, écoute, Seigneur, je n'ai pas envie d'accomplir cette chose-là. Mais si tu me le demandes, alors je le ferai. C'est étrange, hein ? Mais il y avait comme un poids qui était là, je m'en rendais plus compte, qui est parti. Et j'ai pu de nouveau grandir. J'ai toujours pas... Dieu ne m'a pas mis à faire cette chose-là. Hein. Mais c'est comme si je disais, je vais vous donner un exemple pour être clair. Seigneur, je ne vais pas être boulanger. Je ne serai jamais boulanger. Donc c'est un interdit. Imaginez que le Seigneur ait envie que je sois boulanger. Ben, d'un seul coup, son plan et moi, on était en désaccord. Donc il a fallu que je dise, bon, ok, d'accord, Seigneur, si tu as envie que je sois boulanger, je serai boulanger. Je ne suis toujours pas boulanger, mais il n'y a plus cet interdit-là. Il n'y a plus d'interdiction, Seigneur. La miséricorde de Dieu m'a fait grâce tout au long de ces années-là, parce qu'il aurait pu émettre un jugement, puisque tu ne veux pas. Je te dis non, Seigneur a fait grâce. Sa miséricorde m'a épargné peut-être un jugement. Mais par contre, même si elle est grande, sa miséricorde, elle est limitée dans le temps. Cette miséricorde nous est offerte tant que notre cœur peut répondre, tant que nous sommes vivants. En abuser, c'est la mépriser. Abuser de la miséricorde de Dieu, c'est la mépriser. Et par voie de conséquence, c'est mépriser Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu est miséricordieux. Si je méprise sa miséricorde, j'ai un problème relationnel avec Dieu. Hein. Alors, quelques personnages. Il faut que j'avance parce que je suis bavard. Cain. Dieu a averti Cain dans Genèse 4, verset 7. Il nous est dit ceci. « Certainement, si tu agis bien. » Alors là, vous vous souvenez, c'est l'épisode où Abel et Cain offrent un sacrifice. Le sacrifice d'Abel est accepté, reconnu par Dieu. Celui de Cain, non. Et là, dans le cœur de Cain, il y a des choses qui se passent. Et avant le crime, Dieu l'avertit. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Il était accablé, il ne comprenait pas. Et si tu agis mal, attention, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, c'est vous qui l'avez dit. Domine sur lui. Ça, c'est un message pour nous. Nous avons tous reçu le pouvoir de dominer sur le péché. Mais pas avec nos petits bras musclés. Hein. Avec la force que Dieu nous donne. Tout seul, on ne va pas y arriver. Mais le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir dominer sur le péché. Cain a reçu cette capacité. Domine sur lui. Ça veut dire quelles sont les décisions que tu vas prendre. Dieu l'a averti. Mais Cain a choisi la jalousie. Il a choisi la haine et le meurtre. Abel est mort. D'une mort violente, comme on dit aujourd'hui, d'une manière politiquement correcte. Et Cain méritait quoi ? Aussi la mort. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a choisi de le juger, mais de lui laisser la vie. Cain est maudit de la terre, errant, mais Dieu met un signe sur lui pour qu'on ne le tue pas. Genèse 4, 15 nous dit, l'Éternel lui dit... Si quelqu'un tuait Cain, Cain serait vengé 7 fois, et l'Éternel mit un signe sur Cain pour que quiconque le trouverait ne le tuât pas. Pourquoi Dieu laisse Cain vivre finalement ? Parce que s'il y a un jugement qui s'exerce sur Cain tout de suite, il n'y a plus de pardon possible. Mais la miséricorde de Dieu laisse à Cain la possibilité de revenir. Vous savez qu'il y a toujours possibilité de revenir ? Mais si le jugement de Dieu s'applique tout de suite, maintenant nous sommes pécheurs, le salaire du péché, c'est la mort s'applique, on ne peut plus revenir. Cain a reçu cette possibilité de vivre. Pour moi, c'est une démonstration de la miséricorde de Dieu. Dieu n'a pas mis un terme à sa vie. Le problème de Cain, c'est qu'il n'a pas su en profiter comme il faut. Le cœur de Cain n'a pas changé. Il a choisi l'amertume et l'exil. Il est parti. Il est parti. Alors, je comprends, il peut y avoir de la honte hein, dans la famille, ça peut être compliqué. Hein. J'ai tué mon frère. Le premier mort n'est pas de mort naturelle sur cette terre. Le premier mort est de mort violente. Il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, hein, ou enfin sur terre d'ailleurs. Hein. Le premier mort a été d'une mort violente. Donc, je comprends qu'il n'ait pas envie de fréquenter ses parents, sa famille. Je le comprends tout à fait. Mais il a choisi la fuite, l'exil. Plutôt que la repentance. Deuxième, Saül. Dans 1 Samuel 9, chapitre 9 et chapitre 10, on voit que c'est Dieu qui l'a choisi. Saül ne demandait rien. Il n'a pas dit « Je suis candidat, votez pour moi ». Ce n'était pas comme ça. C'est Dieu qui a choisi Saül pour être roi. Et là, pareil, Saül, on l'a trouvé caché dans les bagages, il n'était pas fier à l'époque. Hein. Ce n'était pas quelqu'un qui disait « Coucou, c'est moi qui arrive. Je suis le meilleur. Il n'y a pas de problème, vous allez voir, avec moi, tout va marcher comme sur des roulettes. » Non, non. Il se cachait. Mais vous savez ce que Dieu a fait ? Il lui a donné son esprit. Vous lirez ça dans 1 Samuel 9 et 10. Une onction royale. C'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsque Dieu appelle, il donne les moyens aussi d'accomplir sa volonté. Saül ne se sentait pas du tout capable. Mais Dieu l'a équipé. Tu ne te sens pas capable ? Dieu t'équipe, il n'y a pas de problème. Mais voici que, alors que cela fait quelque temps qu'il exerce la royauté, il se sent pousser des ailes, entre guillemets. Il fait preuve d'initiative. Oh, c'est bien de prendre des initiatives, hein. Demandez à votre patron si c'est bien. « Patron, je peux prendre des initiatives, mais vas-y, vas-y, vas-y. Prends des initiatives, c'est très bien. » Sauf que là, il y avait un problème quand même. C'est qu'il a pris des initiatives malheureuses. 1 Samuel 13, versets 11 et 12, nous lisons ceci. 1 Samuel 13, verset 11. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait, loin de qui ?»« Loin de moi. » C'est le roi, je suis le roi, il s'éloigne de moi. Et que tu n'arrivais pas au terme fixé. Ah ouais, on avait un rendez-vous. T'étais un petit peu en retard. Et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Ah. Rappelez-moi, c'est quoi les fonctions de Saül ? C'est roi, non ? Pas sacrificateur. Il a usurpé l'identité d'un sacrificateur parce qu'il s'est retrouvé avec quelqu'un, le peuple qui s'en allait, il s'éloignait de lui. Donc il s'est senti pousser des ailes. Et il a fait ce qu'il n'avait pas à faire. Qui devait apporter des sacrifices ? Le sacrificateur. Et le roi doit régner. Chacun à sa place. Hein, les lettres de Paul à ce sujet-là. Hein. Si tout le monde était bras, tête, œil, oreille, on serait bizarre quand même. Hein. Non, chaque membre a sa fonction. Et dans la royauté en Israël, chaque personne avait sa fonction. Le sacrificateur pour les sacrifices, le roi pour régner, les Lévites pour exercer au temple, etc., etc. Saül s'est cru investi d'une mission. Je me suis dit. J'ai consulté l'Éternel. Seigneur, je fais quoi ? Voilà la bonne démarche. Mais parce que Monsieur Saül s'est senti pas à l'aise, peut-être pas respecté parce que le sacrificateur était en retard, parce que le peuple commençait à se disperser. Vite, 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 il faut que je fasse quelque chose. Vitesse et précipitation font pas bon ménage. Et là, il a confondu les deux. Et en se précipitant, il a fait n'importe quoi. Samuel lui dit, « Qu'as-tu fait ? C'était pas ton rôle. » Ça, on le voit en 1 Samuel 13, mais en 1 Samuel 15, pareil, de nouveau. 1 Samuel 15, verset 3, « Va maintenant, frappe Amalek, et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Et tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Voilà l'ordre que le Seigneur avait donné. Mais il a fait le contraire. On va lire au verset 22 maintenant, toujours au chapitre 15. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices ?» Et oui, parce que parmi les bœufs, ils avaient fait le tri. Et parmi les animaux, ils avaient fait le tri. Ils avaient gardé les plus belles bêtes pour les offrir à Dieu. Mais Dieu avait dit que ces animaux-là, fallait les dévouer par interdit. Fallait pas les... Ils n'étaient pas destinés à un sacrifice. Quand bien même, ils étaient parfaits. Dieu dit... Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Il vaut mieux apporter des sacrifices ou obéir? C'est ça la question. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bon, Seigneur, je te fais un chèque, là, tu fermes les yeux sur ce que... Non, 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 ça marche pas comme ça. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ah ouais, mais Seigneur, là, si je te fais ce chèque-là ou ce virement-là, ça va être une fin de mois très, très difficile, mais c'est... Non, non, c'est pas ce que Dieu demande. Il demande l'obéissance. Après, l'obéissance amène les sacrifices. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que j'obéis, parce que je respecte Dieu, parce que je lui suis soumis et la louange et l'adoration habitent mon cœur, alors mon offrande, mes dîmes, mes offrandes, mes sacrifices ont de la valeur. Parce que c'est la suite d'un cœur aimant. Et je rends à Dieu tout ce qu'il m'a donné par grâce. C'est ça l'idée de dîmes et d'offrandes. C'est un cœur reconnaissant. Et non pas j'achète ma paix, j'achète mon salut, c'est pas ça. Attention, je ferme la parenthèse. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable, attention, est aussi coupable que la divination. Quand j'ai lu ça cette semaine, je me suis dit, waouh. On passe vite là-dessus, hein, parce qu'on a tellement l'habitude de voir l'obéissance et le sacrifice. Non mais, la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, je tire les cartes, je regarde dans une boule de cristal. C'est ça la divination. Hein. La désobéissance est aussi coupable. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. C'est dur là, Seigneur. Tu pourrais pas adoucir un petit peu? Non, non. En fait, compte, c'est la démonstration, là encore, qu'il n'y a pas de petit ou grand péché. Même si pour nous, ça paraît tout petit, pour le Seigneur, c'est la même chose. Désobéir ou consulter les cartes et compagnie, c'est pareil. C'est une abomination. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché. » Ah, bien. « Car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. » Au moins, il reconnaît, c'est bien. « Et je n'ai pas obéi à tes paroles. » Il reconnaît qu'il n'a pas obéi. C'est quand même la deuxième fois. Regardez bien. Je craignais qui ? Le peuple. Je suis populaire ou pas ? Est-ce que je suis populaire ? J'ai combien de followers ? Dans les réseaux, est-ce qu'on m'aime bien ? Et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. « Reviens avec moi. » Ah, il y a un problème, là, déjà. « Et je me prosternerai devant l'Éternel. » C'est pas moi qui reviens avec toi. En fin de compte, la bonne démarche, c'est Samuel. Je restais avec toi et conduis-moi vers l'Éternel. Qu'on règle le problème. Non, toi, Samuel, viens avec moi. Je t'emmène avec moi. Non, non. Si on est repentant, c'est bon. On va voir l'homme de Dieu et on fait ce qu'on a à faire et on règle notre situation. Le verset 30. Saül dit encore, « J'ai péché, mais maintenant je te prie. » Ah, là, il y a un problème. « Honore-moi. » Ça ne vous choque pas, ça? C'est une attitude de repentance, ça. « J'ai péché, mais honore-moi. Honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. » On rassemble Israël. Voilà. On va l'honorer. Il a péché, mais on va l'honorer. C'est quoi ce délire? Excusez-moi du... Et là encore, reviens avec moi. Et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu, en fait, compte. C'est de la para. C'est du fake, comme on dit aujourd'hui. Ça sonne faux. C'est de l'esbrouf. Faut en mettre plein la vue à tout le monde. Je suis le roi, faut que je garde ma posture. Et je vais me repentir, oui, oui, j'ai péché. Ouais, j'ai fait une erreur, quoi. Mais honore-moi. Par deux fois, on voit Saül qui a pris des initiatives malheureuses. Et à chaque fois, Saül a reçu la miséricorde. Dieu l'a préservé, il a pris soin de lui. Quand bien même, il y a des conséquences à notre péché. La miséricorde n'empêche pas certaines conséquences à nos péchés. La miséricorde pour quelqu'un qui est alcoolique, eh ben, c'est d'avoir la vie suffisamment longue pour qu'on puisse se repentir. Ça n'empêchera pas la cirrhose. On est d'accord ? Pareil pour celui qui se drogue. Et j'ai arrêté les exemples là. Il y a des conséquences à nos actes. Saül, il y a des conséquences à ses actes. Caïn, il y a eu des conséquences à ses actes. Ça n'empêche pas la miséricorde de Dieu qui est là et qui nous dit « C'est quand tu te repens ?» Mais si Saül a bénéficié de la miséricorde de Dieu, il ne s'est jamais brisé lui-même devant Dieu. Il avait l'occasion de remettre en ordre sa vie. Il avait l'occasion de dire, comme David, hein, vous vous souvenez du péché de David avec Bathsheba, hein, David, il n'avait que faire de paraître bien devant le peuple. Il n'avait qu'une seule chose, c'était « Éternel, sois apaisé envers moi ». David est venu le cœur brisé devant l'Éternel. Et quand bien même il perdait sa royauté, ce n'était pas son problème. Ce qu'il voulait, c'était que la communion avec Dieu soit préservée. Ben oui, il avait vu Saül, qui lui avait été plus intéressé par l'orgueil que l'humiliation. Le pouvoir plus que la repentance. Croyez-vous que si Saül avait eu le même cœur que David, il se serait passé quoi ? Connaissant le Seigneur, il aurait continué à régner. Et il se serait passé de belles choses pour le règne d'Israël, le règne de Saül en Israël, pardon. J'en suis convaincu. Mais à cause de la dureté de son cœur et de sa résistance à l'appel de Dieu à la repentance, il y a eu des conséquences. Et David a été appelé. Je regarde l'heure. Allez, troisième. Mieux sûr. Manassé. Vous vous souvenez de Manassé ? Il est qualifié comme le pire des rois. Dans 2 Chroniques 33, vous lirez son histoire. On voit qu'il restaure les idoles, les sacrifices d'enfants, il profane le temple. En fin de compte, c'est un roi, il fait n'importe quoi. D'un point de vue de la parole de Dieu, il fait n'importe quoi. Il n'y a pas un péché qu'il ignore. Il a tout testé. Et s'il y a quelque chose qu'il n'a pas testé, il veut goûter, voir un peu ce qui se passe. Il a fait tout et n'importe quoi, Manassé. Dans 2 Rois 21,9, il nous est dit « Ils n'obéirent point, mais et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. » Manassé fut la cause de l'égarement du peuple d'Israël. Oh ! Quelle responsabilité ! En fin de compte, on est tous des Manassé. Hein ? On peut être la cause de l'égarement de nos enfants parce qu'on est un mauvais exemple. Par exemple, j'en resterai là. Fut la cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites. Le peuple d'Israël, c'est pire que les autres. Que l'Éternel avait détruites par la guerre, et puis il peut y avoir aussi Sodome et Gomorre, par exemple. Là, c'est Dieu qui a envoyé le ciel, le feu, il a détruit ces villes. Il nous est dit pire. Incroyable. Un roi qui est la cause de tout ça. Il a amené le peuple d'Israël dans un état de péché, de dépravation incroyable. Dieu le frappe. Il le rappelle à l'ordre. Il lui tire plus que les oreilles. Puisqu'il est capturé par les Assyriens, Manassé est né en exil. Et là, il comprend. Et là, son attitude n'est pas semblable à celle de Saül, mais là, il prie le Seigneur. Il s'humilie et Dieu l'exauce. 2 Chroniques 33, verset 12, on va le lire. 2 Chroniques 33, verset 12 et 13. Lorsqu'il, Manassé, fut dans la détresse, il implora l'Éternel. Quand tu es dans la détresse, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? On prend la boîte de calmant, là, histoire de s'abrutir, là. Histoire de se shooter, entre guillemets. Et d'essayer de passer une bonne nuit sous médicaments. Pour être contre cette boîte de médicaments qui deviennent notre palliatif, entre guillemets. Une bouteille d'alcool ou un peu de drogue pour nous éloigner de nos pensées, c'est pas la bonne attitude. Quand on est dans la détresse, approchons-nous de Dieu. Il implora l'Éternel, son Dieu, non pas les idoles qu'il avait bâties. Hein. Il s'est pas tourné vers les idoles qu'il avait bâties et compagnie, qu'il avait reconstruites. Non, non. Il s'est approché de l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément. Pas légèrement. Hein. « Ah, Seigneur, je sais que tu es un Dieu et compagnie. Excuse-moi, pardonne-moi, je ne recommencerai plus. » Non, non. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Et j'aime bien ces précisions. Parce que Manassé avait rebâti des autels pour les autres dieux. Ok ? Mais là, il s'approche de l'Éternel, son Dieu, le Dieu de ses pères. Il revient aux racines. Il revient à l'origine de toute chose. Là où Dieu agissait. Pour nous, la croix. Là où Jésus a payé le prix, là où nos ennemis ont été vaincus. Si on a encore un problème avec certaines choses dans nos vies, ne luttons pas tout seul. N'essayons pas de trouver des solutions étranges. Venons là, à la croix où tout s'est passé. Il est revenu devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel se laissant fléchir exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. J'imagine que les supplications de Manassé n'étaient pas pour lui-même, mais il s'est rendu compte à cause de lui, les conséquences pour le peuple, exil, etc. Non, c'est bon, on arrête les bêtises. Seigneur, pardonne-moi. Qu'est-il possible de faire pour réparer tout ça? Et je pense que quand on est sincère dans notre humiliation devant Dieu, face à la réparation, notre vie n'a que peu d'importance. On veut simplement que le Seigneur soit apaisé et nous pardonne. Quelles que soient les conséquences de ce qui arrivera ensuite. Je pense que c'était l'état d'esprit de Manassé. Et alors, quand il est revenu en Israël, on va continuer la lecture, versets 15 et 16, « Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Il les jeta hors de la ville. Il rebâtit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. » Il ordonna à Judas de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quelle belle repentance! Amen! Ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Il a fait de grosses bêtises, pour rester poli. Dieu lui dit, oh, c'est quoi que tu fais? Il se repent, action, réaction, tout ce qui n'était pas bon, dehors, et on va bâtir quelque chose de nouveau. Mais en accord avec ce que Dieu veut. Ah! La définition, la miséricorde n'est pas un permis de pécher sans conséquence, n'est pas un permis de pécher, d'accord ? Elle est un appel pressant à la repentance. Manassé a compris cela. Et il s'est repenti, il a vu la grâce que Dieu lui donnait, celle du pardon. Il a bénéficié de cette miséricorde lorsqu'il a fait toutes ces bêtises. Pourtant, très certainement, le Seigneur s'est manifesté. Vous savez, le Seigneur se manifeste pas qu'une seule fois, il frappe à la porte, hein, nous. Il frappe à la porte. Hein. Il ne se lasse pas de frapper à la porte. Parce qu'il veut qu'on y arrive. Même si Manassé a abusé de la miséricorde, il a compris à temps. Et son cœur s'est brisé. Et qui l'a restauré? Dieu l'a restauré. Un cœur brisé, il y a Dieu qui peut le restaurer. Il s'est approché de Dieu et Dieu a fait une œuvre de restauration dans sa vie. Et cette œuvre de restauration dans la vie de Manassé s'est vue à l'extérieur. Et là, il n'y a pas d'hypocrisie possible. Selon une vieille pub de yaourt, ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Ce que Dieu fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et là, c'est pas du maquillage. C'est pas du maquillage. Vous vous souvenez de cette histoire du clown qui était très dépressif, il est allé voir un médecin parce qu'il était super dépressif et le médecin lui dit « Je peux plus rien pour toi, mais va au cirque là-bas, il y a un clown qui va te faire rire et compagnie. » Il lui dit « Le clown, c'est moi. » En fait, quand il faisait rire tout le monde, mais au fond de lui, il était détruit. L'apparence était joyeuse, était belle, mais à l'intérieur, c'était la détresse totale. On est très fort parfois en maquillage. Comment ça va ? Oh, ça va bien et compagnie, alors qu'à l'intérieur, ça va pas du tout. Mais on se ment nous-mêmes avant de mentir aux autres. On peut dire, on a le droit de le dire, écoute, aujourd'hui, ça va pas. Tu veux que je t'aide ? Non. Prie pour moi. On a le droit de le dire. Hein. Pour pas dire le devoir. On a le droit d'être vrai. Le « ouais, ça va » de politesse, finalement, c'est un mensonge. Hein. Alors nous avons vu, je regarde l'heure, j'en finis. Nous avons vu trois hommes, trois chemins différents. Cain, colère par rapport à son frère, jalousie. Il a refusé de changer, il aurait pu, quand Dieu l'a interpellé, il aurait pu choisir de ne pas tuer Abel. Et quand bien même il tue Abel, il aurait pu toujours revenir à Dieu et lui demander pardon, soit apaisé. Mais non, il a choisi de partir, il s'est exilé, il a choisi l'errance. Quelle drôle de vie. Saül, l'orgueil. Et il se justifiait. C'est le peuple. Ah oui, ça je ne l'avais pas marqué, mais ça m'est venu après. Saül a utilisé les mêmes excuses que Adam. C'est le peuple qui. C'est la femme que tu as placée à mes côtés. Vous vous souvenez de ça ? Comment Adam s'est justifié ? J'y peux rien, c'est pas de ma faute. Mais c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a dit que c'était pas si mauvais que ça, et finalement, voilà. Et Saül, il a fait pareil. C'est le peuple qui... Il a eu peur du peuple. Il a entendu le peuple. Il a agi. Il s'est laissé avoir par le peuple. Mais non, hein, Saül, t'es responsable de tes actes. Donc, il a été rejeté comme moi. Et la fin de Saül, c'était le suicide. Assisté, mais suicide quand même. Et Manassé, malgré tout ce qu'il a fait, sa réaction à la miséricorde, c'était quoi ? C'est l'humiliation et la repentance. Qui a eu pour conséquence ? La restauration et la paix. Israël a continué pendant tout le règne de Manassé dans la paix. Alors pour conclure, Romains 2,4 nous dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité ?» ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La miséricorde de Dieu, nous l'avons vu, est grande, mais elle appelle une réponse. Est-ce que tu te reconnais en Caïn, en Saül, ou est-ce que tu as envie de devenir un Manassé ? Dieu t'attend, Dieu nous attend. Et si on est là ce matin, c'est que il y a encore de la place pour nous, pour bénéficier non seulement de la miséricorde, mais de cette miséricorde qui nous amène à la repentance. Et la conséquence de tout ça, la repentance, nous permet de bénéficier de la grâce, le pardon qui est gratuit. Ça, c'est la grâce. Aujourd'hui, c'est peut-être le dernier jour. On ne sait pas. Hein. Ésaïe 55, versets 6 et 7 nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Alors peut-être que le Seigneur va revenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, demain, dans une demi-heure. J'aurai peut-être même pas le temps de terminer qu'il sera revenu. On ne sait pas. Mais si le Seigneur revient dans 50 ans, qui nous dit que dans 50 ans, tu seras toujours là ? Dans 2 jours ? Dans 1 heure ? Dans 5 minutes ? Claquement de doigts et c'est fini. Hein ? Donc cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Si on désobéit à Dieu, si on ne lui obéit pas, on est méchant. Hein. Donc on est tous concernés par ce terme méchant, hein, si on n'obéit pas. Et l'homme d'iniquité, ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Qui aura ? La miséricorde de Dieu. Hein. Si je m'approche de Dieu parce que je suis pécheur, il a pitié de nous. C'est la démonstration de sa miséricorde. Hein. C'est sa miséricorde. Il ne nous condamne pas, nous, en tant qu'humains. Ah, tu m'as fait ça, tu vois, ce qui va te tomber dessus. Là, on n'est pas miséricordieux. Seigneur, ah, tu reviens à moi, il n'y a pas de problème, viens. Viens, mon enfant. Ah ouais, tu mériterais que je te rappelle les règles. Mais on verra ça après, viens. Comme le père avec le fils prodigue. Quelle belle démonstration de la miséricorde d'un père vis-à-vis de son fils, qui est parti avec l'héritage alors que le père est vivant. Moi, un héritage, c'est quand on est mort. Donc déjà, un non-sens. C'était pas prévu, mais je le fais quand même rapide. Il part avec l'héritage. Mais plutôt que de le faire fructifier, il fait la bamboula, il achète les copains, ceci, cela. Il fait la fête pendant un certain temps. Et quand il a plus d'argent, eh ben, il a commencé à faire des choses qui n'étaient pas acceptables. Même fréquenter des cochons. Qui était une abomination pour les Juifs. Hein. Mais quand on se roule dans le péché, on se roule dans le péché jusqu'au bout. Hein. Et nos règles habituelles disparaissent complètement, on ne se reconnaît même plus. Hein. Mais voilà qu'à un moment donné, il a dit stop, ça suffit. Il a sonné la fin de la récréation. Il s'est souvenu de ce qui se passait dans la maison de son père. Ce matin, je ne sais pas où tu en es, mais souviens-toi de ce qui se passe dans la maison du père. Et même les plus petits serviteurs ne manquent de rien. Et si je pouvais être simplement un serviteur, ça me va bien. L'humilité. Il rentrait à la maison. Non pas « Coucou, papa, c'est moi qui arrive ». Bon, je sens pas bon, hein. Je prends une douche et je te fais la bise après. Non, non. Il est arrivé plus bas que terre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand il s'est approché de la maison du père, ben, il n'a pas eu le temps d'arriver à la maison que le père est parti à sa rencontre. Et il ne lui a pas dit « Oh, mon fils, c'est quoi ces vêtements? Ça fait combien de temps que tu n'as pas pris une douche? Tu sens pas bon, hein ?» Non, non. Il l'a pris. C'est mon fils. C'est ça la miséricorde. Il aurait pu le rejeter, hein ? Qui aurait reproché au père de rejeter son fils après de tels agissements ? Quel amour ! C'est ça l'amour de Dieu pour nous. C'est ça l'amour de Dieu pour nous. La grâce, oui, mais la miséricorde. Heureusement qu'il y a la miséricorde, parce qu'elle nous permet d'arriver à la repentance. Ne faisons pas comme Caïn, Saül, et il y en a tellement d'autres. J'avais pensé à Élie le sacrificateur, qui n'a pas été capable de diriger sa famille, et on lui rapportait ce que faisaient ses enfants, il fermait les yeux, il fermait tellement bien les yeux qu'il ne voyait plus rien à la fin de sa vie non plus. Tellement d'hommes et de femmes dans la parole de Dieu, sur lesquels on aurait pu s'appuyer pour illustrer la miséricorde de Dieu et des conséquences de nos choix face à la réaction, nos réactions face à la miséricorde de Dieu. Ce matin, ma prière, mon vœu, c'est que tous, moi le premier, nous n'abusions pas de la miséricorde de Dieu, mais que nous n'oublions pas que si il est miséricordieux, c'est pour que nous puissions arriver à la repentance. Laissons le Seigneur éclairer nos cœurs. À la maison, tout à l'heure, dans la voiture, peut-être même maintenant. Et on va terminer par la prière. Peut-être même maintenant. Il y a peut-être des décisions à prendre dans nos vies. Alors, je ne vais pas faire un appel, parce que c'est trop personnel. Mais j'aimerais simplement qu'on puisse prier, avoir un temps de prière. Voilà, quelques minutes. Et je vais demander à Philippe Fontana, s'il veut bien prier, s'il te plaît, Philippe, pour nos bien-aimés, pour nous-mêmes. afin que le Seigneur nous conduise et que nous puissions discerner là où le Seigneur attend que nous réglions notre vie. Oui, mais je crois qu'on sait très bien ce qui a réglé dans nos vies. S'il te plaît, Philippe, merci. Amen. Bonne fin de journée, bon appétit.